Ismaël au Cachin Oriental. J'ai réussi totalement cette équipe.
Moi, c'est Céline de Koumbati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Café qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange citoyen. Les estimations disponibles à la division de la population des Nations Unies et l'Institut National de la Statistique indiquent que la population de la RDC devrait atteindre les 100 millions d'habitants avant ou autour de 2030. D'où l'importance, estiment certains observateurs, qu'il convient d'attacher au renforcement de la politique d'intégration du planning familial dans la gestion de la santé publique en RDC. Cette politique, estime les uns, contribuera en effet non seulement à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant dans le pays, mais aussi à la maîtrise de la croissance démographique et ainsi qu'à une amélioration plus rapide des conditions de vie de la population. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-893-1515 pour intervenir en direct. Mais le débat se déroule également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Julie César Bongonda est au standard. Jérôme Gembo est à la réalisation et coordination de ce magazine, mis en monde par Dieudonné Nyangassa. Pierrot et la Meiji vous le présente sous la supervision de Martin Seboujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux Auditeurs, 081-893-1515. Ou par internet pa@radiocafé.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Les estimations indiquent que la population congolaise pourrait atteindre 100 millions d'habitants avant ou autour de 2030, d'où la nécessité de mettre un point sur la question du planning familial, non seulement pour la protection de la mère et de l'enfant, mais certains observateurs estiment que la maîtrise de la croissance démographique peut aussi contribuer à l'amélioration plus rapide des conditions de vie de la population. Votre point de vue est le bienvenu dans cet échange. Nous avons associé dans cette émission Dr Léon Moubikaï, qui est gynécologue, spécialiste en santé publique, mais aussi un député national, membre de la commission socio-culturelle à l'Assemblée nationale. Dr Léon Moubikaï, vous êtes avec nous dans cette émission. Bonjour.
Bonjour, monsieur Ramiz.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et avec ces estimations, d'atteindre près des 100 millions d'habitants autour de 2030, que la question de la démographie est une préoccupation dans les domaines de la santé aujourd'hui pour notre pays?
Oui, une explosion démographique, c'est un problème sérieux pour notre pays parce que les ressources seront limitées. Les ressources ne se multiplient pas, mais nous multiplions et nous utilisons presque toutes les ressources. Qu'est-ce qu'on va laisser pour le développement durable pour nos enfants et nos futures générations? C'est un problème sérieux, il faudra que les décideurs prennent conscience de ça.
Mais quand vous dites qu'on se multiplie, est-ce que c'est un problème de la multiplication de la population ou bien le problème des politiques qu'il faudrait mettre en place pour accompagner cette multiplication de la population?
Le problème, oui, effectivement, c'est le problème de la multiplication des gens, mais cette multiplication peut être modulée à partir des politiques.
Et vous avez dit que cela peut être modulé à partir des politiques. Est-ce que ces politiques, c'est en lutte dans les cadres de contrôle des naissances ou c'est un problème aussi de priorités qu'il faudrait aujourd'hui mettre en place dans la lutte contre la pauvreté et l'accompagnement de ces naissances?
Effectivement, surtout c'est dans la lutte contre la pauvreté qu'il faut mettre toutes ces mesures. Et on doit avoir une politique claire sur l'évolution de la population. C'est que nous manquons pour le moment.
Et quand on regarde aujourd'hui les domaines de planification familiale, peut-on dire qu'il y a des progrès, vous qui êtes gynécologue, y a-t-il des progrès qui ont été enregistrés ou il y a encore un grand travail à faire? Quand vous regardez, vous comparez cela par rapport à d'autres décennies?
Je crois qu'il y a 20 ans, c'était pratiquement un tabou. Sur le plan social, il y a quand même une prise de conscience d'une certaine classe de la population, surtout la classe moyenne de la population qui prend conscience de la multiplication. Mais sur le plan de l'État, aucun effort n'a été fourni pour avoir une politique claire. Il n'y a aucun cadre juridique aujourd'hui, malgré l'intervention de beaucoup de d'organismes, de sociétés civiles et d'autres qui interviennent dans les domaines sur le repositionnement de la planification familiale. Plusieurs ateliers ont été organisés, mais on n'a pas un cadre juridique clair.
Parce que quand vous parlez de cadre juridique clair, vous êtes député national, est-ce que c'est un cadre qui doit limiter ou un cadre qui laisse à chacun la liberté, mais qui permet quand même qu'on puisse avoir un contrôle autour de cette question?
En fait, nous parlons ici de naissances désirables, on ne parle pas de la limitation des naissances, nous ne pouvons pas appliquer la politique de limitation des naissances comme telle, parce que les mesures seront plus drastiques, on va vous dire qu'il ne faut pas avoir deux ou trois enfants, mais on dit ici qu'il faut avoir les enfants au moment où vous voulez, à nombre vous voulez, compte tenu de vos moyens. Donc je pense que c'est un problème de régulation des naissances et non les limitations des naissances.
Mais dans ce problème de régulation de naissance, vous l'avez dit que l'État ne fait pas assez, on voit quand même des partenaires, des sensibilisations qui se font. Mais est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui, vous l'avez dit, dans la classe moyenne, il y a quand même une prise de conscience. Alors, ce cadre juridique, en principe, doit faire quoi précisément pour accompagner cette politique?
Je crois qu'on doit avoir... Aujourd'hui, par exemple, s'il y a un prestataire qui a des problèmes avec les accidents, par exemple, dans la planification familiale, il n'est protégé par aucune loi.
Mm-hmm.
C'est ça le problème, il n'y a aucune loi qui le protège.
Mm-hmm.
Donc, avec ça, il faut qu'on ait une politique claire sur les naissances désirables.
Mm-hmm.
C'est ça qui nous manque.
Ok, la politique est claire.
Donc, ce sont les efforts. Mm-hmm. Peut-être individuel d'une certaine classe de la population, les efforts des intervenants, mais sur le plan de l'État, il n'y a aucune politique claire en cadre, dans le cadre des naissances désirables.
Mm-hmm. Et pourtant, cela a été intégré au niveau de la santé publique depuis quand même plusieurs décennies. Mais alors, comment ceux qui travaillent dans ces domaines arrivent-ils? Est-ce qu'ils le font d'une manière à tâtons ou bien c'est chacun qui détermine ses stratégies dans les cas d'intervention sur le terrain dans les naissances désirables?
Non, nous avons quand même des stratégies claires. Il y a tout un service, un programme sur ça, le programme de... il y a un grand programme qui s'occupe
de la reproduction. Oui.
De la reproduction, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres éléments intégrés, mais la planification familiale joue un grand rôle dans ces programmes-là.
Et dernièrement, quand le nouveau gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre Ali Badibanga a été investi, le Premier ministre a évoqué parmi ses priorités de rendre la maternité gratuite. Je crois que ce concept a été diversement commenté dans le milieu de Congolais. Il y avait les gens qui pensent que si on veut avoir les naissances désirables et qu'au même moment déclarer la gratuité de la maternité, est-ce que cela ne risque-t-il pas de dire voilà comme la maternité n'est plus une question de d'argent et que cela encourage les gens? Voilà, il y a eu quand même une certaine polémique, hein. Cela a été interprété d'une manière diverse au sein de la population, docteur.
Oui, c'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas une politique claire. Je pense que s'il y avait une politique claire, on n'aura même pas à intervenir là-dessus. Combien de pays au monde ont libéralisé, ont rendu la maternité gratuite? Mais ces pays-là, ils ont aussi des systèmes de planification familiale très développés.
Mm-hmm.
C'est le cas, par exemple, du Burkina Faso. Ce n'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire, mais ça a été tellement très mal interprété par les uns et les autres. C'est d'ailleurs, ça devait même être un devoir d'un État responsable, d'un gouvernement responsable, de rendre la maternité gratuite. Dans tout d'autres cieux, même la césarienne est déjà gratuite aujourd'hui.
Mm-hmm.
Mais ici, ça a été très mal interprété par certaines classes qui se disaient alors qu'on nous envoie avoir les enfants. Mais nous allons les nourrir avec quoi? C'est aussi leur droit légitime.
Mm-hmm.
Il faut améliorer les conditions de vie des parents pour avoir les enfants en bonne santé.
Voilà, toutes ces questions devaient être élaborées dans une politique claire. 081-893-15, c'est la ligne pour intervenir en direct. Donc, là, nous vous gardons. On va ouvrir les standards d'un moment à l'autre pour les compatriotes qui ont des contributions autour de cette question. 081-893-15.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. de 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes filles distinctes. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un geste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi. Parole aux auditeurs.
Onésime, vous nous appelez de Mbujimayi au Kassa Oriental. Bonjour Onésime.
Bonjour, monsieur Gère.
Pourriez-vous, Onésime, diminuer le volume de votre poste récepteur ou carrément arrêter votre radio, parce que là, ça ne va pas nous permettre de bien communiquer, et comme ça, vous allez rester avec votre téléphone portable. Alors, quelle est votre contribution, Onésime, dans ces magazines?
Oui, l'émission est très intéressante.
Onésime, si vous pouvez carrément, si vous pouvez arrêter votre radio, s'il vous plaît.
Je crois actuellement c'est le deuxième en termes de subvention en Afrique. Mais si vous voyez les pays comme le Nigeria, je pense que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Le pays comme la Chine, je crois que c'est le pays le plus peuplé du monde. Mais malgré cette population, il y a quand même une suivi. Les gens sont éduqués, formés. Aujourd'hui, nous voyons les Chinois partout à travers le monde. Donc la démocratie pour eux a un avantage. Mais ici, chez nous, je crois certain que le pays commence à être peuplé. Mais qu'est-ce que nos dirigeants font pour l'avenir de nos enfants? Il n'y a pas des écoles, beaucoup sont sur la rue. Et aujourd'hui, si on veut parler, par exemple, de limitation des naissances, les naissances désirables, c'est pas mal. Mais je crois que chez nous, c'est pas encore important. Mais ce qui est essentiel, c'est que l'État sache faire la suivi de la jeune population naissante. L'avenir de demain.
Oui,
voilà ce qui est très important.
Pour vous,
je ne sais pas les émissions de Radio Okapi. Est-ce que vous faites aussi la suivi pour faire parvenir toutes nos interventions aux ayants droit, aux concernés, aux dirigeants?
Vous êtes dans une émission, c'est nous n'allons pas quand même amener encore à un ministre ce que vous dites, parce que vous le dites déjà dans une émission, l'émission qui est suivie par les ministres, par tous les services de l'État, les services sur l'émission, c'est déjà le fait que nous vous permettons, vous, de vous exprimer, c'est déjà vous vous adresser à des millions de personnes qui vous écoutent, y compris des députés, des sénateurs, des ministres sont en train de suivre l'émission. Voilà, ils vous écoutent, mais vous, vous estimez qu'il faudrait plutôt utiliser la démographie avec une politique bien définie. Ça peut être plus bénéfique hein, pour vous. C'est une question de savoir qu'est-ce que l'État fait avec cette population qui est là. Vous avez donné l'exemple de Nigeria et de la Chine. Merci beaucoup, Onésime Machaka. Maître, vous êtes à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, M. Thierry, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute, maître.
Merci beaucoup, M. Thierry. Vous savez, le problème des plans familiales, c'est le plan juridique, M. Thierry, c'est qu'il n'y a pas aucune loi qui prévoit les plans familiales. Mais le problème en est qu'il y a des problèmes là-bas, M. Thierry. Le premier problème, c'est la conscience individuelle de quelqu'un qui met au monde, puisque vous n'allez pas seulement mettre au monde pour mettre, il faut savoir planifier votre naissance conformément à votre moyen, puisque ces enfants-là ont les droits. Vous devez savoir comment respecter les droits de ces enfants-là, puisque il y a beaucoup de nos compatriotes qui mettent au monde seulement pour mettre, et qui sait très bien son revenir, mais n'est pas en mesure de supporter tous les besoins de ces enfants-là, mais ils mettent au monde seulement pour mettre au monde maintenant. Deuxièmement, c'est les problèmes du gouvernement aussi. Notre gouvernement doit savoir mettre une politique en place pour l'encadrement de cette population-là. Comment occuper la population qui vient au monde, monsieur Pierre? Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de ces enfants-là qui sont des chiens, et ainsi de suite. Tout ça, il y a une part de responsabilité des parents et de l'État aussi. Mais dans quel sens, M. Pierrot? Puisque aujourd'hui, lorsque ces enfants se retrouvent dans la rue, c'est parce que par manque de moyens des parents, les parents ne sont pas mieux payés et les enfants sont obligés de faire l'article 15 et de se débrouiller même. Aller sur la rue, faire des travaux pour avoir quelque chose. Alors, les églises aussi doivent aider l'État congolais à conscientiser leurs fidèles pour le problème de mettre au monde M. Pierrot, faire voir la responsabilité de tout et chacun pour un enfant qui vient de mettre au monde M. Pierrot.
Merci beaucoup, Maître Machaka. Vous avez d'abord démontré qu'il n'y a pas aujourd'hui un cadre juridique qui prévoit le planning familial, mais du moins, le reste du travail, c'est au niveau de la conscience. La politique et le gouvernement doivent définir, mais aussi le rôle de chacun dans la sensibilisation et la conscientisation. Et là, vous avez évoqué les rôles que peut jouer aujourd'hui l'Église ou d'une manière globale les confessions religieuses. Merci beaucoup, Maître Machaka. À Kananga, Étienne, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Étienne.
Merci de m'avoir passé la parole. Moi, je pense que c'est très pertinent. À un certain niveau, la loi dont nous préférons pour l'instant ne peut pas être une loi qui nous impose le nombre de enfants. Vous savez que l'homme africain, on m'a dit aujourd'hui que les richesses de l'homme africain, c'est les enfants, ce qui n'est pas totalement vrai. À un certain niveau, moi je pense que chaque famille devrait faire le bilan de ce qu'il a comme moyen, ce qu'il a comme possibilité, ce qu'il a comme richesse, donner le nombre des enfants limités. Personnellement, je tiens à saluer le Père Léon, et je connais sa qualité parce qu'il a eu un rendre un service de qualité à l'hôpital du monde de Jésus-Christ. Il ne fallait pas attendre que la personne de seule nous dise ce que c'est. Je reviens à un autre sujet pour dire qu'il fallait s'expliquer à la population africaine, mais pas à la population congolaise. À la population. Nous, les Africains, nous aimons beaucoup les enfants. Celui qui en a deux, il vous dit que non, celui qui en a trois, on préfère en avoir 20, 50, 10, mais vous avez comme moyen. Et qu'est-ce que vous avez comme possibilité? À un certain niveau, je connais des familles. Je peux tirer un ami ou des collaborateurs qui a des enfants, une fille et un garçon. Et les enfants, là, sont devenus des barbares. Ils ne respectent ni personne, ils se comportent très mal. Donc, vous voyez, les garçons, sa manière de s'habiller, ils s'habillent en taille basse, les sous-vêtements à l'extérieur, les cingles à l'extérieur. La fille de l'autre côté, elle passe une nuit dans des bars, dans des hôtels, mais à quoi sert l'importance de donner naissance à des enfants qui ne vous respectent pas? Il faut déshonorer votre famille. La question nécessaire devrait être tournée autour de la compétence de chaque famille. Donc les parents devraient faire un bilan, voir là où nous partons et là où nous venons, dans ce sens, là ça pouvait être. Mais imposer à l'homme africain le nombre des enfants, je pense que ça ne pouvait pas tenir vraiment.
Merci beaucoup, Étienne. D'ailleurs, notre invité l'a dit, hein, l'imposition a beaucoup de conditions drastiques. Merci beaucoup. On revient à vous, Dr. Léon Moubikaï. Vous avez suivi nos auditeurs. Il y a notre ami Onésime qui a évoqué la question de conditions de vie, de la croissance économique avec le nombre de la population. On se rend compte qu'il y a bien sûr cette inadéquation, mais vous l'avez dit depuis le début, que c'est un problème de politique bien défini. Alors, qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par les compatriotes?
D'abord, j'ai un sentiment de satisfaction de voir que tous ceux qui sont intervenus là montrent quand même que c'est nécessaire d'appliquer les naissances désirables. Donc, vous voyez, ça aussi, il faut dire que ceux qui interviennent sur nos chaînes, ce sont les gens qui ont un certain niveau de maturité, qui ont un niveau d'éducation élevé. Mais ce n'est pas la même chose avec celui qui vit peut-être plus loin à Luego là-bas dans un petit village et qui ne comprend même pas ce qu'ils sont en train de dire. Alors, dans ce qu'ils ont dit, je pense qu'il faut scinder des choses. Ils maîtrisent les choses eux-mêmes. Ils doivent savoir maintenant qu'il y a une différence entre la limitation des naissances, parce qu'il y a un qui a évoqué l'exemple de Chine. Aujourd'hui, en Chine, vous ne pouvez pas avoir deux enfants, plus de deux enfants. Ce qui fait que ils ont même plus de garçons parce que dès qu'on découvre à l'échographie que c'est une fille, ils partent faire tout de suite l'avortement, comme l'avortement est autorisé, et ils cherchent les garçons. Ils descendent aujourd'hui en majorité à Cambodge et partout là pour avoir des femmes à marier. Donc ça, c'est la limitation des naissances. On vous dit, vous vous arrêtez à autant. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Quand ils évoquent le Nigeria a une politique de planification familiale, une politique de naissance désirable. et une politique qui permet même la promotion de la femme et d'éviter la mortalité maternelle, avoir des naissances bien réglementées, avoir des accouchements gratuits dans les centres. Mais c'est qu'un compassion traduit aussi la conscience de chaque famille. Je l'ai évoqué ici pour dire qu'il y a une classe moyenne émergente qui comprend bien les choses et ce sont malheureusement les gens-là qui vivent dans la ville, qui comprennent bien les choses. En fait, ce qu'on demande ici, vous devez avoir les enfants en nombre voulu. Vous avez voulu combien? Compte tenu de vos moyens. Mais aussi, tenir compte de la santé de cette femme qui donne ses enfants au monde. Il faut avoir un écart entre les accouchements pour permettre à cette femme de récupérer et d'avoir les enfants et les éduquer correctement. Voilà au moins ce qu'on veut dire. Donc, tout ce qu'ils ont dit, c'est une vérité. On ne fait pas la limitation des naissances, mais on demande à ce qu'on ait les enfants au moment voulu et en nombre voulu. Pour tout ce qu'ils ont dit des gouvernements, je suis pleinement d'accord avec eux. Le gouvernement a démissionné de ses responsabilités et c'est comme ça que nous sommes en train de vivre.
Et quand on a évoqué cette question de la croissance démographique avec la croissance économique, cela veut dire si on a des politiques bien définies, on peut aussi utiliser cette population comme une richesse. Quant à savoir qu'est-ce qu'on veut faire d'elle aujourd'hui, comment est-elle pourrait-elle être utilisée dans la production? C'est ça aussi le grand problème, les défis qui a les grands défis aujourd'hui à relever.
Voilà, c'est une vérité parce que l'augmentation de la population, c'est aussi un grand marché. Vous n'avez qu'à le voir avec la Chine, avec le Nigeria, comme les compatriotes l'ont évoqué. Mais c'est aussi un couteau à double tranchant. Avec un SMIC de moins de $100 ou $500, vous avez 5 enfants. L'école est payante. Parce qu'ils peuvent nous raconter tout ce qu'ils racontent pour l'école primaire et gratuite. C'est faux et archi faux. L'école est payante parce que cette école qui semble être gratuite, nous payons des frais, des primes pour les enseignants à tout moment. Donc, vous avez les enfants que vous ne pouvez pas envoyer à l'école, qui grandissent, comme on dit dans nos villages, avec ces dieux qui les élèvent, ils avalent de l'air pour grandir selon ce que les villageois disent. Et à la fin, c'est quelle population? C'est quel type de population? Alors, quand vous êtes sur le boulevard, on vous agresse. C'est ça la population. Quel est l'avenir de cette population?
Et aujourd'hui,
c'est ça la réflexion voilà. que nous devons faire.
Voilà. La question de l'avenir de la population devrait être au centre de la réflexion au niveau du pouvoir public. Franck, vous êtes à Vienne, vous gardez la ligne. Eric et Talika 681-890-6315 pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes avec nous, vous avez suivi ce que Dr. Léon disait tout à l'heure, l'inadéquation entre la démographie, la croissance économique, et il a dit que l'État est absent, on peut avoir bien cette population, mais on fait quoi d'elle, l'accès aux infrastructures de base, l'école, tout ça. Alors comment on peut arriver aujourd'hui à inverser la tendance, Franck, non seulement présenter à la population cet intérêt du planning familial, mais aussi avoir cette capacité de pouvoir gérer cette même population pour qu'elle soit utile et productrice pour le pays. Bonjour Franck.
Oui, bonjour M. Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour aux amis qui se sont déjà prononcés. Je dois commencer par remercier l'invité parce qu'il a presque lancé le débat très solide et très nécessaire par rapport à ce qui doit être retenu pour le débat d'aujourd'hui. Si vous avez eu le temps d'exploiter les points de vue que je vous ai envoyés, c'est presque ce qui doit être dit aujourd'hui.
Exact.
Par rapport à ce qui est déjà dit, je vais seulement ajouter d'abord deux éléments avant d'argumenter. Jusqu'ici, par rapport à ce qui a été dit, je vais ajouter qu'on n'anticipe pas certains défis de vie chez nous, mais on les subit seulement et parfois de manière passive. Ça, c'est un élément parfois que dont on n'est pas souvent conscient, parce qu'il manque dans notre manière de faire, nous manquons dans notre philosophie de gestion, les réflexes prévisionnels. On n'a pas de réflexes prévisionnels pour anticiper les défis par rapport auxquels on ferait face dans 10, 15 ans ou 20 ans, mais on a plutôt des réflexes attentifs. Donc on attend que le défi soit là devant nous et on se met à frapper des portes par-ci par-là pour arriver à trouver des solutions. Et parfois ça peut être tard. Oui, par rapport à ce qui est déjà dit, je crois que pour aujourd'hui, parler de la croissance démographique, c'est une thématique qui est vraiment transversale. Parce que quand on parle de la croissance démographique, on voit d'abord l'évolution de la population qui peut évoluer, qui peut doubler, qui peut. Et quand la population, le nombre d'habitants progresse, ça doit aussi impliquer la progression des infrastructures dont ces gens auront besoin. Alors, je crois que c'est au niveau de ces axes-là, de ces axes, qu'il faut orienter le débat d'aujourd'hui. Alors, par rapport à ce que nous connaissons chez nous, par rapport à ce qui s'est fait, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à la manière de gérer chez nous, je crains personnellement que de telles thématiques, que de telles estimations ne disent rien à ceux qui sont en train de nous gouverner. Pourquoi je le dis? Parce que un pays qui veut progresser, un pays qui a des soucis de progresser véritablement dans tous les aspects de vie, doit avoir aussi une manière, une gestion assez conséquente. Monsieur le journaliste, mais nous sommes tous Congolais, nous voyons comment nous sommes gérés. Si déjà les 80 millions de Congolais qui sont là, l'État congolais a de la peine pour leur trouver des emplois, l'État congolais a de la peine pour les prendre en charge dans certains services, dans certains bureaux de fonction publique, dans certaines régies, il y a des grèves, il y a des impayements allant de 60 à 120 mois. Est-ce que seulement dans 10 ans, quand, la même, quand on aura 100 millions d'habitants, ça serait différent? Personnellement, je ne pense pas encore. Dans certains pays qui sont gouvernés de manière conséquente, quand on émet des estimations comme ça, on met en place une équipe d'experts dans tous les domaines. Parce que là, ils doivent savoir, quand nous aurons 100 millions d'habitants, on doit avoir des espaces à lotir pour des nouvelles constructions, on doit avoir des espaces à lotir pour des œuvres sociales, pour des écoles, pour des hôpitaux, pour des écoles maternelles, pour des terrains, pour des marchés et pour cela. Et on doit penser aux conditions de déplacement de tous ces citoyens-là. On doit penser aux conditions d'emploi. Est-ce qu'on est d'abord arrivé à ce niveau-là? Parce que si déjà les gens qui travaillent pour le moment sont payés, si déjà les gens qui travaillent pour le moment ne sont même pas mécanisés, est-ce que de telles thématiques peuvent vraiment toucher l'attention mentale de ceux qui nous gouvernent? Moi, je crois que gouverner, c'est anticiper. On éviterait parfois de nous contraindre de faire passer des actes de médiocrité pour des actes d'excellence. Monsieur le journaliste, nous sommes au 21e siècle. On n'est plus au 17e, on n'est plus au 19e. On n'est plus vraiment à cette étape-là où on devrait nous imposer de dire oui à la place de non, non à la place de peut-être non. Nous sommes au 21e siècle. On nous dit que la RDC, c'est un État démocratique. Un État démocratique, c'est un État qui doit avoir des citoyens qui émettent des opinions libres. Moi, je trouve que les estimations sont bien passées, mais par rapport aux réalités que nous vivons chez nous, elles sont encore loin d'être concrétisées. Pourquoi? Parce que déjà, depuis les années 80, la RDC, vu sa superficie, vu ses ambitions, vu ses richesses, n'est même pas à mesure d'organiser un recensement pour évaluer les vraies estimations démocratiques de ses habitants. La RDC, depuis des années, n'arrive même pas à trouver des fonds pour imprimer des cartes d'identité devant aider les gens à faire, à opérer de tels travaux. C'est un pays qui ne sait même pas d'abord maîtriser le nombre de ses habitants. Un pays qui n'arrive pas à imprimer des cartes d'identité pour ses habitants. Serait-il seulement à mesure de faire face à de tels défis?
Vous avez quand même évoqué quelque chose de très important dans votre intervention en parlant de la redistribution de richesses, ce qui peut créer aujourd'hui l'équilibre. Si jamais les richesses sont redistribuées d'une manière équilibre, s'il y a cette injustice sociale avec assez de moyens conséquents, les gens peuvent encadrer leur famille. Mais vous estimez aussi qu'il y a tellement de distractions à certains moments qu'il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de prévision et que même ces chiffres ne risquent de servir personne, surtout en ce qui concerne les décideurs, parce que ce n'est pas une urgence, ce n'est pas une préoccupation pour eux, et que ces 5 millions de personnes vont surprendre la RDC en 2030 sans qu'il n'y ait aucune anticipation ni une prévision pour faire face à la situation. Merci beaucoup, Franck. On retourne au pays. Eric, vous êtes à Likassi. Bonjour, Eric.
Bonjour, la radio Campus, c'est Kabongo Eric. Vraiment, c'est un sujet qui nous a intéressé, un sujet qui nous prend encore des larmes aux yeux ou sur lesquels nous devons vraiment y réfléchir. Puis moi, je prends l'exemple de la Chine. Les conditions qui leur permettent d'accéder sur le plan du développement et être comptées parmi les pays. Donc, il y a eu la politique sur les conditions de l'échange ou de la reproduction. Si la République démocratique du Congo aussi prend de telles mesures, ce serait des mesures à saluer. En fait, ayant compris les chiffres qui attendent la République, pour arriver à 100 millions, qu'en ferons-nous avec les chiffres et les montants? En même temps, du fait qu'il y ait une libération de la maternité gratuite, dans certains niveaux de vie, les autres le prendraient comme des jeux. Voilà aujourd'hui, comme la loi précise qu'un homme majeur de 18 ans, mais nous allons compter les milliers ruraux et les milliers urbains. Donc, il y a la différence. Au village, les gens prennent des grossesses à 16 ans, 12 ans. Donc, nous devons vraiment être quand même responsables de notre pays, parce que la voie à suivre, même s'il y a de telles mesures, on veut aboutir à l'éclosion que notre pays, qui sort en voie de développement, mais que notre pays puisse s'aligner et au pays développé.
Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Vous avez évoqué cette question du milieu rural, là, où le problème se pose. C'est pourquoi je vais demander à Dr. Léon, vous avez suivi les uns et les autres, mais il se pose quand même cette question de la coutume, parce que vous l'avez dit aussi, ceux qui sont au fin fond, où il n'y a pas accès à l'information, comme nous le faisons ici aujourd'hui à Kinshasa, peut-être qu'ils ne comprennent même pas tous ces débats, mais qui se trouvent en milieu ruraux, il se pose un certain problème d'accès à l'information, mais aussi les problèmes des coutumes. Vous pouvez placer un mot et aussi réagir à ce que disait tout à l'heure le deux compatriotes, le Dr. Léon.
Je remercie beaucoup Franck parce que c'est une contribution très très fondée. Je commence par dire que c'est sûr que peut-être sort pour certains c'est une blague, mais quand nous parlons de l'indice de fécondité de la femme congolaise, on est aux environs des 6,7 quelque chose. On peut facilement s'imaginer le temps de dédoublement de la population, même si on n'a pas fait le recensement. Et c'est sûr pas, c'est ça, que les gens se disent, attention, en telle année, nous risquons d'avoir telle population. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette population-là? C'est ça qu'il faut. Donc, le problème ne se pose pas au niveau du scientifique qui dit ça, mais le problème se pose du côté de celui qui doit gérer les chiffres qu'on lui donne.
Oui.
Et si vous avez un État quasiment démissionnaire, les chiffres ne lui disent rien. On ne peut pas vous dire aujourd'hui, en dehors de quelques données, dans les domaines médicaux, dans les zones de santé, on peut vous dire que les enfants de moins de 5 ans sont autant de naissances, c'est autant. Mais la plupart des cas, ce sont des chiffres extrapolés et c'est scientifique. C'est reconnu qu'il y a les temps de dédoublement de chaque population. Donc ça, c'est une évidence. Considérons que c'est un chiffre sérieux. Mais demandons à ceux qui doivent utiliser ces chiffres de savoir ce qu'ils doivent faire pour prévoir dans 5-10 ans qu'est-ce qu'on doit faire, quel type d'école, quel type de maternité, quel type d'hôpitaux on doit construire par-ci par-là. Voilà, ça c'est une évidence. Pour ce qui est du milieu rural, retenez une chose, l'Africain de façon générale est pro-natalisme. Il aime les enfants. Mais les choses sont en train de changer. Certains et nos compatriotes sont restés dans cette histoire de pronatalisme. Et pourtant, l'amélioration des conditions de vie, le développement médical a fait. Dans les temps, les gens pouvaient en avoir beaucoup parce qu'ils savent que les autres allaient mourir. Et on peut sauver ce qu'on peut sauver. Mais aujourd'hui, avec le développement de la médecine, vous en avez 10,
Vous avez la chance que tous les bis grandissent. Mais pour en faire quoi? C'est ça qu'on demande. On n'impose pas. On demande à ce que les gens prennent conscience et qu'ils réalisent que le monde de pronatalisme est déjà dépassé. Parce que même Samir Ahmed qui avait dit ça en Égypte, finalement, il a découvert que, après 84, il a découvert que c'était une bêtise. Aujourd'hui, on sait que les ressources sont limitées. Nous avons beaucoup de ressources, comme tout le monde l'a dit. Mais ces ressources vont aller jusqu'à quand? On va les exploiter, ça va se terminer un jour. Or, nous, nous allons continuer à nous reproduire. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Dans nos milieux ruraux, les problèmes de la planification familiale est un problème sérieux parce que c'est géré par les rumeurs. Moi, je suis gynécologue. Je sais que l'utilisation, par exemple, des contraceptifs oraux est un élément de protection contre les cancers du sein, contre les cancers de l'endomètre. Mais dans nos milieux ruraux, on va vous dire, si vous prenez les pilules, vous aurez les cancers. Si vous prenez les tubes, des dispositifs intra-utérins, vous aurez des cancers. Ça, c'est la première chose, c'est l'humeur. La deuxième chose, c'est la non-implication de l'homme dans la planification familiale.
Oui.
L'homme ne veut pas participer à la planification. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent des méthodes contraceptives à l'insu de leur mari. Parce qu'elles-mêmes, elles se sentent fatiguées. Mais l'homme ne s'implique pas. Et la troisième chose, c'est l'éducation de la femme elle-même et de l'homme aussi. Vous allez remarquer que plus le niveau d'éducation monte, plus on s'intéresse à sa santé et plus on s'intéresse à la planification familiale. Les femmes qui sont mieux éduquées, qui ont fréquenté l'école, déjà l'école même, c'est une façon de retarder la première naissance. Si vous gardez une fille à l'école jusqu'en sixième année des humanités, ça signifie qu'elle dépasse déjà 18 ans sans avoir la première grossesse. C'est déjà un grand élément. Et si une femme comme ça sait comment il doit agir sur la santé, sa propre santé, et même sur la santé de sa future famille. Voilà au moins ce qu'on peut dire.
Merci, docteur. On retourne ici à Kinshasa. Ben, vous êtes avec nous. Bonjour, Ben.
Oui, bonjour, M. JR, et bonjour, notre invité, le compatriote docteur.
On vous écoute, Ben.
Je voulais intervenir juste pour dire que la population congolaise, même si elle atteignait aujourd'hui 5 millions d'habitants, cette population, jusque-là, ne sont pas encore nombreux. Et il faut retenir une chose, le premier capital par excellence pour le développement d'un pays, c'est d'abord sa population. Alors, du moins si cette population est bien éduquée, bien encadrée, et cela va contribuer au développement de notre pays. Mais, dans le cadre actuel, je suis vraiment très désolé du fait d'entendre de la bouche de notre invité que jusque-là, nous n'avons pas le cadre juridique pour, disons, soutenir ou bien encadrer le planning familial.
Oui.
Alors,
oui, il y a
un grand pays comme la RDC, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui protège la maternité ou la population en RDC. C'est très dommage. Hein? Vous voyez, JR, que notre invité a semblé dire ici que dans l'ère débat, le gouvernement a dit bon, si jamais il y a une loi qui protège ou bien qui fait la maternité gratuite, il y a un risque que la population augmente vite et les gens vont beaucoup mettre au monde.
C'est non, mais la chose.
Oui,
ben,
il y a
ben,
une loi,
oui, ben,
un cadre juridique pour protéger le planning social, d'abord c'est la vulgarisation. Et du moment où le peuple congolais peut prendre conscience que le planning familial est une très bonne chose, je ne crois pas que tout le monde ira dans le sens de, disons, mettre au monde d'une manière bizarre. Hein? Alors, de ce fait, si la vulgarisation a été faite, même si les gens mettraient au monde, on a toujours dit que diriger, c'est prévoir. Alors, si les dirigeants de ces pays ne sont pas en mesure de prévoir pour prévenir ce qui pourrait advenir à la population de demain, la culture de la démission s'impose. Vous n'êtes pas en mesure de prendre la population congolaise en charge. Alors, vaut mieux, démissionner. Et regardez les pays comme mes prédécesseurs viennent de le dire, le pays comme la Chine, comme le Nigeria, comme d'autres, tant d'autres pays dans le monde. Ils se développent à cause de la population. Et nous sommes dans un pays où la densité n'est même pas la plus forte au monde. hein, par rapport au Rwanda, par rapport à la Palestine, par rapport à la Chine, nous avons encore une superficie qui est vierge. Si nous avons la plus forte densité ici en République démocratique, ce sont dans les centres urbains comme à Kinshasa, comme dans les grandes villes, mais aller dans l'arrière-pays. Hein? Nous avons encore beaucoup de terres vierges qui doivent être exploitées, où les gens peuvent habiter, où on peut développer, où on peut faire tout. Alors, au jour d'aujourd'hui, la population congolaise ne fait pas peur. Même 100 millions, 200 millions, 300 millions, c'est encore peu par rapport à ce qu'est le monde aujourd'hui. Et ça peut vraiment contribuer au développement de ce pays.
Merci beaucoup.
C'est la raison pour laquelle nous regrettons du fait que jusque-là, un grand pays, un pays démocratique comme la République démocratique du Congo, jusque-là, il n'y a pas un cadre juridique pour protéger le planning familial.
Voilà.
Hein, alors que nous avons tant de masses d'idées.
Voilà, mais
de centres radio, télévision, et c'est l'État qui devrait prendre en charge pour vulgariser, faire comprendre à sa population. Nous, aujourd'hui, il y a des enfants qui ne sont pas éduqués, qui sont tous ceux que nous déplorons aujourd'hui. C'est parce que jusque-là, les masses médias ne font aucun effort pour vulgariser les valeurs qui peuvent amener cette population à être utile pour le pays.
Merci beaucoup, Ben. Vous n'avez pas, on n'a pas dit le contraire, hein, je crois, même avec notre invité. Et quand on a évoqué la possibilité, la gratuité de la maternité, comme présenté dans le programme du gouvernement du Premier ministre Sami Badibanga, c'est là que notre invité a dit, cela a été commenté, hein, nous l'avons dit diversement par la population, mais il a donné l'exemple des pays comme le Burkina où la maternité est gratuite, mais le planning familial est très bien encadré. C'est ça votre souci, qu'on ait un cadre juridique qui protège, vous l'avez dit, la maternité, qui encadre la planification familiale. Et pour vous, s'il y a des politiques bien définies, sans de même, la population pourra augmenter, mais avec les moyens conséquents, avec la création des richesses, on peut bien encadrer cette population. C'est ce que notre invité disait tout à l'heure, qu'on ne peut pas continuer à avoir une démographie galopante dans des conditions où la pauvreté aussi est très extrême. Merci beaucoup, Oben. Maître Alex, vous êtes à Kamina. Bonjour, maître.
Bonjour, M. J.R., bonjour, Radio Okapi, salut tous les auditeurs. M. J.R., c'est vraiment avec un artime, avec un cœur brisé. Je suis moi-même animateur d'un grand cours d'éducation à la nouvelle citoyenneté. Si vous voyez parmi les éléments qui constituent un État, il y a la population. La population, c'est une force pour un État. La population, c'est une richesse pour un État J.R. Au jour d'aujourd'hui, nous avons suivi avec une attention soutenue l'invité de la radio au Capi. Laissez-moi vous dire que moi-même, j'ai été formé en TFL. Je crois que l'invité comprend quelque chose. TFL signifie planification familiale naturelle. J'ai eu la chance d'être formé par une religieuse belge qui m'avait beaucoup aidé à comprendre comment espacer les naissances. J'ai écrit ici, dans un milieu urbain et rural, nous comprenons facilement espacer les naissances. Aujourd'hui, on ne peut pas accuser la population de dire que les maris ne veulent pas contribuer à espacer les naissances. Il y a même des femmes qui avalent des histoires de contraceptifs sans l'accord ou sans l'aval de maris. Nous regrettons que l'État congolais, le gouvernement congolais ne s'est pas encadré cette pauvre population. Prenez le cas de l'Est de notre pays, vous allez vous rendre compte que c'est une population qui est abandonnée, qui a son propre frustration. Aujourd'hui, notre frère meurt là-bas, il n'y a rien qui se réalise. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pensons, nous estimons que le gouvernement congolais a tout intérêt d'encadrer la population ou la nation congolaise. Parce que si au jour d'aujourd'hui, nous voyons la Chine en train de se développer dans notre pays, c'est parce que d'abord, sur le plan démographique, ils ont une population forte, et cette population est consciente que le gouvernement en train d'encadrer, et la population est en train de travailler. Donc, je pense et j'estime que la grande partie revient au gouvernement congolais pour savoir encadrer la population et encadrer aussi les gens qui vivent dans des milieux urbains. Voilà ma petite contribution à ce niveau-là.
Merci beaucoup, maître Alex. Quand notre invité a évoqué tout à l'heure la méconnaissance des méthodes, ou bien la rumeur aujourd'hui, en tant que gynécologue, il a expliqué aujourd'hui qu'il y a les gens disent à la cité le contraire de ce qui se passe dans les corps sur le plan scientifique. Quand quelqu'un prend prend par exemple des pilules ou telle méthode de contraception. Mais comme vous l'avez dit, en tant qu'animateur communautaire, c'est aussi ça le rôle des animateurs communautaires, c'est d'aller vers la population pour apporter une information exacte. Si peut-être dans votre milieu, il y a des hommes qui comprennent et qui s'impliquent dans la planification familiale, peut-être ce n'est pas le cas aussi ailleurs. Lui, en tant que gynécologue qui sillonne la RDC, il sait ce qu'il dit. Mais vous êtes revenu aussi sur la responsabilité de l'État dans l'encadrement de la femme, dans l'encadrement de la population. Ingénieur Eric, vous êtes avec nous des Kikwit dans la province de Kwilu. Bonjour, ingénieur Eric.
Oui, bonjour, Pierre et la Mégie.
Vous avez suivi la responsabilité aujourd'hui, elle est partagée. Il y a la société elle-même, les familles qui doivent prendre conscience de cette question de planification familiale pour faire face. Est-ce que c'est aussi pour dire que non, dès que les gens prennent conscience, que l'État croise les bras? Parce que là, vous avez vu qu'il faut qu'il y ait quand même une corrélation entre la démographie et aussi les efforts qui sont fournis par le pouvoir public dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Quel est votre point de vue, Eric?
Oui, alors, moi, je pense que la responsabilité est partagée, et de la part de l'État et de la part de la population. De la part de l'État, pourquoi? Parce que l'État ne s'occupe même pas il pouvait même élaborer cette planification, mais le problème se pose dans l'applicabilité des choses. On peut élaborer, il y a des lois qui sont votées au Parlement, mais jusque-là qui n'ont jamais été appliquées. Moi, je pense que l'État a vraiment une faiblesse en cette matière. De la part de la population aussi doit être consciencieuse de tout ce qui est de tous les actes qu'il est en train de poser. Parce que, je vous dirais ceci, il y a un auteur en entomologie qui avait parlé de l'augmentation de la population. Donc, la population augmente sans cesse, mais la production diminue, baisse de plus en plus. Vous allez comprendre que l'agriculture reste jusque-là traditionnelle. Ça signifie quoi? Lorsque l'agriculture reste traditionnelle, il y a une faible productivité. Alors, la population qui augmente chaque année n'est pas facilement compensé par la production. La production doit augmenter de la même manière que la population. De chez nous, ici, en République démocratique du Congo, la population augmente, mais la production agricole diminue de plus en plus. Moi, je pense que l'État devait d'abord commencer par augmenter la production agricole. En augmentant la production agricole, ça va facilement résoudre les problèmes. Tous ces problèmes qui sont en fait d'exposer. Moi, je pense que c'est de cette manière-là que l'État doit agir.
Merci beaucoup, Eric. Il y a d'abord la question de la sensibilisation avec l'implication de la population, mais qu'il y ait aussi cette adéquation entre l'augmentation de la population et la production. Sinon, chez nous, ça fait le contraire. Et dans ces sens, la population ne sera pas encadrée. C'est de la responsabilité de l'État. Ibrahim, vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour, Ibrahim.
Bonjour, monsieur Pierrot. Et moi,
oui, allez-y.
Ici, chez nous, c'est catastrophique dans ces problèmes-là. Je veux que le gouvernement dote une loi pour qu'il y ait une loi pour la production de la population. Chez nous, ici, donc, je ne sais pas comment te dire chez nous au Maniema.
Alors, Ibrahim, c'est que vous vous rendez compte qu'au Maniema, c'est qu'il y a une croissance démographique, beaucoup de gens mettent au monde, mais il n'y a pas un encadrement. C'est ce que vous voulez dire, Ibrahim?
Oui, il n'y a pas un encadrement. Il n'y a pas un encadrement chez nous ici. Donc, je ne sais pas comment te dire, monsieur Pierre.
Voilà, mais déjà,
des gens qui ne savent, qui ne savent pas comment les garder, comment les scolariser, les nourrir. Donc, je ne sais pas comment te dire.
Merci beaucoup, Ibrahim. C'est un problème sérieux, vous l'avez dit. Docteur Léon, vous avez suivi les compatriotes. C'est vrai que peut-être dans la compréhension, comme le disait tout à l'heure Maître Alex de Camina, lui, il s'étonne qu'il n'y ait pas des hommes, que les hommes ne sont pas assez impliqués. Comme je le disais tout à l'heure, ça dépend dans quel milieu vous êtes, parce que le problème est très sérieux. Ça dépend des cultures des uns et des autres. Presque tout le monde est revenu sur cette responsabilité de l'État, mais la responsabilité aussi individuelle. Mais plusieurs fois, on a toujours cette tendance à pouvoir rechercher la responsabilité chez l'autre. Mais faudrait-il aujourd'hui arriver aussi à ce que les gens intériorisent toutes ces notions de discussion de planning familial pour éviter plus qu'on soit qu'on mette la responsabilité sur quelqu'un d'autre quand même l'État a ses devoirs là, docteur Léon.
Oui, je crois que on doit arrêter de considérer toujours tabou tout ce qui concerne les sexes. Il faut qu'on parle de la planification familiale à tous les niveaux. Peut-être quand on parle de cadre juridique, il y a peut-être un compatriote qui n'a pas bien compris, qui était étonné parce qu'on a évoqué ça. En fait, quand on dit cadre juridique et la capacité de la maternité, il n'y a pas de contradiction. Je vous ai donné l'exemple du Burkina. Au Burkina, aujourd'hui, il y a une loi sur la planification familiale. Il y a même les distributeurs à base communautaire. Donc, dans la communauté, on forme les gens qui ne sont ni infirmiers, ni médecins, et qui distribuent les méthodes contraceptives dans la communauté. Ici, la planification familiale est encore très médicalisée. Pour avoir une plaquette de pilules, il faut aller à l'hôpital. Alors qu'il y a moyen qu'on fasse ça en dehors
de l'hôpital. Voilà.
Voilà une loi comme ça. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire avec les accouchements gratuits. Donc, on peut accoucher quand on a désiré accoucher, mais on peut être encadré après cet accouchement en se disant, bon, on doit faire 2 ans sans tomber encore enceinte. Mm-hmm. Par exemple.
Et docteur, quand vous évoquez cette histoire, quand même, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que, aussi longtemps que la question de la contraception, de la planification, va rester à l'hôpital, on peut déjà aussi une certaine barrière entre les prestataires des services ainsi que la population. Si on peut rendre cela plus social et impliquer d'autres acteurs de la société, ça peut être plus facilité.
Exactement. Voilà ce que le maître a évoqué je crois que le maître Eric Akamina.
Alex, maître Alex,
oui. Il n'est pas infirmier, il n'est pas médecin. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est déjà beaucoup. Conscientiser les gens. Bon, il s'est limité au monde médecin naturel, je comprends sa confession, je ne vais pas revenir sur ça. Mais même les méthodes modernes peuvent être données, distribuées par les gens qui ne sont pas à l'hôpital, mais qui reçoivent une formation, une formation soutenue par les gouvernements.
Mm-hmm.
Donc, voilà. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas du domaine médical. Ça peut être rendu populaire et rendu dans la communauté par les membres de la communauté.
Oui. Et ça, vraiment, il faudrait qu'on ait un cadre juridique qui détermine de quelle manière on doit arriver à cette planification familiale. Et ça, c'est un volet très important, la socialisation, si on peut dire ainsi, de la planification familiale, pour éviter que ce soit seulement une question gérée à l'hôpital. On va écouter Madame Joséphine qui nous appelle de Boston aux États-Unis d'Amérique. Merci, Madame, de vous être réveillée très tôt pour intervenir dans Parole aux auditeurs. Bonjour et bienvenue.
Ah, bonjour Pierrot, hein. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole, bonne année.
Merci beaucoup.
Moi je vais dire ceci, je vois d'une autre œil tout ce que les intervenants viennent de dire, mais quand on parle de planning familial, c'est pas seulement réduire les naissances. Le planning familial c'est pour aussi augmenter les naissances. Moi, je vois, il y a une contradiction par rapport à la politique de nos autorités congolaises, parce que on laisse les gens, par exemple, au niveau de l'Est, on laisse les Rwandais, les Ougandais, au niveau du Sud, on laisse même les Soudanais venir au Congo. Et mais pourquoi on doit demander aux Congolais de faire le planning pour réduire les accouchements? De 1994 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu au moins 5 millions ou bien 6 millions de Congolais qui ont été tués dans des circonstances, dans des guerres. Même aujourd'hui, les Congolais meurent. Moi, je ne sais pas pourquoi nos autorités doivent se plaindre ou bien veulent créer les plannings familiales pour réduire la population encore congolaise. Au contraire, on devait laisser les Congolais libres, on devait les encourager d'avoir beaucoup d'enfants. Ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a les gens, les Congolais qui ont le moyen, ils ont acquis le moyen illégalement, ils n'ont pas la volonté de distribuer ces moyens-là. C'est pour cela qu'ils voient que non, pour que nous on garde le moyen, il faut qu'on demande aux autres de ne pas avoir les enfants. Il y a une contradiction. On laisse le Congolais avoir les enfants pour remplacer ceux-là conduit chaque jour au Congo, on tue les gens.
Mais là, pourvu aussi, madame.
Parce qu'ils sont, voilà. Pas, ils sont malades, on les tue parce qu'il y a la guerre.
Mais là, faudrait-il aujourd'hui aussi, madame, vous l'avez dit, si on peut encourager la population à avoir des enfants, mais on le disait depuis le début de l'émission, les enfants qu'on peut supporter. Mais la question, c'est la redistribution des richesses. On peut avoir les enfants, mais que ces enfants soient encadrés et qu'il y ait une politique redistributive et égale, que tout le monde, même si on a beaucoup d'enfants, mais qu'on soit en mesure de les encadrer. Mais dès lors qu'on se rend compte qu'on a ces conditions de vie précaires et continuer à avoir aussi beaucoup d'enfants qu'on ne peut pas supporter, un problème se pose.
Rapidement. Un pays, il y a une administration sociale. Les enfants, ce n'est pas seulement papa et maman qui doivent contribuer à leur développement. Il y a la société, il y a l'État qui doit prendre en charge la population.
Voilà, merci beaucoup, madame. Là, on a 30 secondes pour permettre à Dr. Léon de pouvoir conclure ces débats. Dr. Léon, vous avez suivi les uns et les autres. Merci d'être avec nous. Un mot de conclusion par rapport à ce qui a été dit par les compatriotes.
Rapidement, je voudrais tranquilliser madame pour dire que le traitement de la stérilité, par exemple, pour les couples qui n'ont pas d'enfants, fait partie aussi de la planification familiale. Donc, ce n'est pas seulement demander à réduire, mais aussi, on peut traiter la stérilité, on peut résoudre certains problèmes aussi liés à la procréation. Moi, je pense que le dernier mot que je peux dire à la population, c'est que là où on remarque que l'État a démissionné, il faut se prendre en charge. Donc, ne fabriquons pas les enfants parce qu'il faut qu'on a seulement la joie de les fabriquer sans savoir leur avenir. Ça sera un cercle vicieux, ça sera le même bandit que nous allons former qui seront dans la rue, et ça sera les femmes que nous allons enterrer parce qu'elles partent accoucher avec des accouchements trop rapprochés. Voilà au moins en principe ce que je peux demander à nos compatriotes d'appliquer.
Merci beaucoup, docteur Léon Moubikaï, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin, gynécologue et puis député national. Merci aux compatriotes. Vous avez été nombreux à commenter ce sujet autour de cette question des démographies et des plannings familiales. On se retrouve demain, vendredi, pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Merci à Dieudonné Nyangassa, qui était à la mise en onde, Julie Pézabongonda au standard, Gilles Lungembo à la réalisation de la coordination. Et puis, je vous ai présenté ce magazine sous la supervision de Martin Tebujangwe. Merci, au revoir.